Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Ce dernier lundi, le 22 avril, c'était la Journée de la Terre. C'était donc l'occasion pour les médias d'en parler dans leur gros titre. Et c'était l'occasion pour nous de revenir sur la couverture de la crise climatique. Pour en parler cette semaine, donc, je suis avec Étienne Leblanc, qui est journaliste à Radio-Canada spécialisé en environnement. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Étienne, tu viens de lancer le balado « 1000 questions, une planète » centré sur l'environnement. On va en discuter dans l'émission. Et d'abord, on va parler de l'évolution de la couverture média du réchauffement climatique depuis une vingtaine d'années, parce que bon, ça fait quand même une vingtaine d'années oui. que tu fais ça, tu es l'invité idéal pour ça. Bienvenue à Détour. Alors d'abord, pour commencer, Étienne, comme on le disait, ça fait 20 ans que tu couvres le sujet environnement et climat à Radio-Canada. Ça fait donc de toi un des premiers à être spécialisé sur cette question-là, du moins dans nos médias ici. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur tes débuts? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir couvrir le climat dès le début des années 2000?
Bien, 2024, ça va faire 20 ans. Je me souviens, j'ai commencé en 2004, quelques mois avant ou un an avant à peu près la conférence des Nations Unies sur le climat qui a eu lieu à Montréal en 2005. Il y avait quand même d'autres collègues, hein, Lynn Pagé, Jacques Rivard, là, qui s'intéressaient à la question environnementale. Et puis moi, en fait, c'est que j'ai été amené à travailler pour l'émission scientifique Les Années-Lumière, qui est la très vieille émission de science à Radio-Canada, qui existe toujours. Et puis donc, j'ai été amené à travailler avec l'équipe des Années-Lumière et eux aussi, ça fait longtemps qu'ils couvrent l'environnement, donc ils m'ont demandé de m'intéresser davantage à ce sujet. Mais disons que le contexte était très bon parce que début des années 2000, il y a le troisième rapport du GIEC qui est publié, puis on dirait que c'est là qu'on a plus commencé à parler de la question climatique parce que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, il publie des rapports depuis 1990, je crois, c'était leur premier rapport. Mais c'est un sujet dont on parlait très, très peu, en fait. Puis le début des années 2000 aussi, c'est Al Gore aux États-Unis qui émerge et qui commence à parler de ce sujet, qui commence à avoir beaucoup d'attention publique. Donc, disons que le contexte était bon, puis on était chanceux parce que, comme je vous disais, la conférence de l'ONU se déroulait à Montréal. Donc, on a couvert ça de long en large ici à Radio-Canada. On a fait notre émission sur place. Il y avait plusieurs journalistes qui étaient là. Alors que les conférences de l'ONU sur le climat, on les couvrait pas avant. Puis à partir de 2005, ils m'ont envoyé dans à peu près toutes les conférences de l'ONU qui ont suivi par la suite. Donc, je les ai presque toutes couvertes depuis, à quelques exceptions près. Donc, c'est comme si, tout convergeait pour que je puisse monter dans ce train-là. Puis évidemment, j'ai eu une fille en 2003, j'ai eu mon premier enfant en 2003. Et évidemment, quand un enfant, tu regardes l'avenir peut-être d'un œil un peu différent, tu te dis « Ah, ça m'inquiète dans quel monde elle va grandir et tout ». Donc, il y avait tout ça combiné qui fait que l'environnement, finalement, ça m'a énormément intéressé.
Donc, on peut dire qu'il y a eu un espèce de boom à partir de 2005, ou du moins dans l'intérêt à Radio-Canada pour couvrir la question climatique. Depuis, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus.
Ouais.
Comment ça s'est passé, cette transition-là, maintenant qu'il y a toute une équipe qui travaille sur la question médiatique dans les salles de nouvelles? Qu'est-ce que ça a changé sur la manière de couvrir le climat?
Ben, ça change que je crois qu'on deux têtes valent mieux qu'une. Pendant longtemps, j'ai été tout seul à couvrir ces questions-là. Puis mes collègues, mes rédacteurs en chef étaient contents du travail qu'on faisait et tout. Au début, je faisais surtout la radio, je faisais un peu de télé. Maintenant, il y a le web qui est très, très important. C'est vraiment une plateforme en entier à Radio-Canada. Puis je pouvais pas faire ça tout seul. Moi, j'ai commencé à le voir il y a 4 ou 5 ans, 6 ans peut-être. Les gens commençaient à me dire... Franchement, tu ne rapportes que des mauvaises nouvelles. Tu ne rapportes que des mauvaises nouvelles parce qu'évidemment, les scientifiques nous annoncent en général que ça va pas bien aller dans un futur proche ou même peut-être lointain, à moins qu'on prenne des actions pour pas que ça se produise. Et ça commençait à me toucher, ça. Les gens me disaient, on n'est plus capable de vous écouter parce que vous rapportez toujours des mauvaises nouvelles. Et on a commencé à avoir ces discussions-là à Radio-Canada sur comment est-ce qu'on pourrait continuer à parler de cette réalité, continuer à décrire les faits scientifiques, donc à décrire la réalité sans se mettre de lunettes roses, mais en évitant que les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs arrêtent de nous écouter, puis ferme la télé, ferme la radio, en étant plus capable d'avoir ces mauvaises nouvelles. Puis je dirais que depuis la pandémie, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, le monde va pas très bien. Et le fait qu'on ait maintenant une vraie équipe qui couvre l'environnement, on se pose ces questions-là avec plusieurs points de vue, puis on est en mesure de rendre peut-être notre couverture un petit peu plus intelligente pour répondre à ces changements-là puis aux préoccupations des gens.
Parce que dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que au début des années 2000, on n'en parlait encore pratiquement pas, puis qu'on est passé en une quinzaine d'années à en parler d'une manière qui a saturé l'attention. Ça a duré finalement 15 ans, peut-être, la capacité d'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ces 15 années-là? C'est quoi, peut-être, les grands événements marquants qui ont fait qu'on est passé de « on en parle à peine » à « on est saturé d'en parler »?
Bien, je crois que ce qui s'est passé, c'est que je me souviens au milieu des années 2000, quand on en parlait, par exemple, je parlais du rapport du GIEC 2003, le rapport les scientifiques nous disaient voici les effets qu'il y aura en 2020, en 2023, en 2025. On parlait des effets dans l'avenir, mais...
Dans notre tête, c'était super loin, là.
C'est ça. Oui, effectivement, c'était dans 20 ans. Mais on ne subissait pas encore aussi intensément les effets des changements climatiques. On voyait ce qui se passait en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est ou en Asie du Sud. Mais ici, sur le continent nord-américain, c'était moins présent. Et il y a eu l'ouragan Katrina que moi, j'ai couvert et qu'on
a... Ça a été marquant, ça, Katrina.
Ça a été marquant dans l'esprit des gens parce qu'aux États-Unis, dans une ville où on allait à la Nouvelle-Orléans pour écouter de la bonne musique, bien manger, tout ça, c'était pas loin de chez nous. Des milliers de morts. Ça a vraiment frappé l'esprit, cet événement-là. Et je dirais que ça, moi, après ça, je me suis mis à couvrir énormément de catastrophes naturelles. On m'envoyait sur presque tous les ouragans qui s'en venaient. J'en ai couvert plein. Et donc, il y a comme eu une prise de conscience que, finalement, c'était pas juste en Afrique, les changements climatiques, mais c'était aussi ici. Et puis, le Canada, ben, petit à petit, a aussi commencé à subir les effets des changements climatiques.
Cela fera une semaine demain. Les flammes commençaient leur ravage à Fort McMurray, en Alberta. Et encore aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le feu pourrait doubler de superficie, vous l'avez entendu, au cours des prochaines heures et atteindre la frontière même de la Saskatchewan.
Begin tonight with a developing disaster in Fort McMurray, Alberta, where the entire population of 80,000 is on the run from a city on fire. The whole place is being evacuated after a dramatic shift in the wind sent an out-of-control wildfire inside city limits.
De certains quartiers de Fort McMurray, il ne reste que des souvenirs. Dans l'antre du monstre, comme l'immense feu a été surnommé ici, les dommages sont partout.
L'augmentation de l'intensité ou en tout cas de la superficie des forêts qui ont brûlé.
Ouais.
Les feux de Fort McMurray, il y a quelques années, qui ont vraiment marqué les esprits. Les grandes inondations au Manitoba, dans le coin de Winnipeg, la rivière Rouge, le lac Winnipeg qui a débordé. Les inondations après en Outaouais, Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les gens se sont aperçus finalement que les changements climatiques, c'était bien réel. Et on a évidemment, nous, comme journalistes, on couvre ces événements-là comme catastrophe naturelle. Et puis, au fil du temps, en tout cas, ici, à Radio-Canada, on a essayé de s'arranger pour donner un sens à ces événements-là, les mettre dans un plus grand contexte, justement, où on a plein d'informations sur la science. On peut expliquer ces choses-là. Donc, c'est un peu le mandat qu'on s'est donné. Et donc, tout ça fait en sorte qu'on en parle beaucoup plus. Et maintenant, ben, les gens, moi, ce que je reçois comme message, c'est arrêtez de nous en parler. On n'est plus capable d'en prendre. Et c'est normal, c'est une forme de protection. On se protège, hein, parce que si on se fait répéter jour après jour que l'avenir est vraiment très, très sombre puis qu'il n'y a pas de porte de sortie, on se protège. On se protège, c'est un moyen de protection psychologique, je crois. Et nous, notre rôle, c'est pas juste de dire, ben non, l'avenir est rose, toutes les solutions sont là, mais il faut permettre aux gens d'avoir une emprise sur le problème.
Ouais.
C'est un des grands enjeux de notre siècle, là, les changements climatiques. Il faut faire en sorte d'avoir un récit qui permet aux gens de dire « j'ai un certain contrôle sur le problème et je peux faire quelque chose. » Et surtout, je peux en tirer profit dans le sens où je peux en tirer des bénéfices. T'sais. Si, par exemple, je mets de la pression sur mes politiciens, je suis plus dans l'action pour qu'on plante plus d'arbres dans ma ville, qu'on agrandisse les parcs, qu'on bonifie les pistes cyclables, qu'on sécurise les infrastructures pour les piétons. Ce sont toutes des choses qui vont profiter à ma santé physique, à ma santé mentale et qui vont rafraîchir la ville où j'habite. Et qui vont... Il y a toutes sortes de bénéfices dont on peut tirer. Il faut aussi parler de ça dans le récit qu'on fait de ce grand problème.
Donc, on est parti d'un journalisme où peut-être on parlait en termes de catastrophe naturelle, pratiquement une tragédie venue des dieux, là, à voici ce qui se passe, mais aussi voici pourquoi ça se passe, puis un exercice de vulgarisation scientifique.
Et voici ce qu'on peut faire.
C'est ça, c'est la troisième étape, le journalisme de solution.
Oui, le journalisme de solution, moi j'aime plus ou moins cette expression.
Quelle expression pourrait utiliser?
Bien, le journalisme intelligent, je ne sais pas trop quelle expression, mais c'est parce que le journalisme de solution, c'est très important de parler des solutions, puis ici, c'est ça, on fait vraiment un effort de le faire. Mais c'est parce que ça peut évoquer l'idée qu'on arrête de parler des problèmes. Donc, mais il ne faut pas arrêter de décrire la situation. Parce qu'elle existe, la situation. Il ne faut pas se mettre de lunettes roses. Et c'est ça la difficulté.
C'est d'essayer de parler de voici le problème, voici la cause du problème et voici ce qu'on pourrait faire pour le problème dans le même article.
Oui, exactement. Bien, c'est ça, c'est d'essayer d'englober tout ça. Vous parliez des catastrophes naturelles. Je vous ai dit, j'en ai couvert, là, je ne sais plus combien. Beaucoup aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, en Europe, en Amérique latine. Des catastrophes, on pourrait dire, climatiques aujourd'hui.
Oui.
Bon, j'en ai couvert là, tellement. Et à un moment donné, à Radio-Canada, on a dit... On arrête le journalisme de catastrophe. On le fait encore là, quand, évidemment, les feux de forêt, par exemple, l'année dernière au Canada, on a couvert ça, c'est sûr. Mais toujours dans l'idée de donner un contexte aux auditeurs. Moi, je ne suis plus envoyé du tout là, quand il y a des gros ouragans aux États-Unis, tout ça, je ne suis plus envoyé à ça. Mais on me demande d'expliquer le contexte de ça. Donc, ça, c'est une chose qui a changé dans notre façon de faire.
Parmi les enjeux auxquels font face les journalistes, il y a celui encore du climato-sceptisme. C'est comme si l'enjeu était à deux niveaux. Il y a le déni de l'existence des changements climatiques, puis il y a aussi le déni du rôle des activités humaines dans le réchauffement climatique. Ça existe encore.
Oui.
Pendant que d'un autre côté, il y a les gens qui sont tellement conscients qu'ils sont tannés d'en entendre parler.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait encore pour s'adresser à cette partie-là du public qui est encore dans le déni?
Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Hein. Le déni climatique, c'est en croissance.
Oui.
Pourquoi ça? Pourquoi les gens sont dans le déni? Il y a des gens qui étaient dans le déni pendant la pandémie. Dans le fond, c'est la même chose pour eux. Là, c'est que
on nous ment.
On essaie de nous emberlificoter avec un discours qui enlève du contrôle sur nos vies. Bon. C'est la même trame, que ce soit le vaccin, le virus ou le climat.
Le gouvernement, les médias, tout le monde nous ment.
C'est la même chose. Bon. Il y a ça, mais il y a des gens qui sont dans le déni, pas parce qu'ils sont dans ce complotisme-là, mais plutôt parce qu'ils sont stupéfaits. Et ils se disent, la planète est folle. La planète est folle et ça se peut pas qu'on ait fait ça. Et donc, il y a comme un...
Il croit trop, donc il refuse d'y croire.
Il lâche prise parce que c'est trop gros. Et il y a un peu de ça dans la question du déni climatique. Puis nous, notre rôle, évidemment, c'est de donner du sens, de parler des faits, de donner des exemples. et de donner des exemples qui sont proches des gens qui sont dans leur communauté. T'sais, par exemple, on parle des transports en commun ces temps-ci. Et on se fait toujours dire, une des solutions pour lutter contre les changements climatiques, c'est de prendre le transport en commun. Alors, on veut bien prendre les transports en commun, sauf que dans bien des banlieues, dans bien des quartiers, c'est très difficile parce que le bus que vous allez pouvoir prendre, il passe à chaque heure, à chaque heure et demie. Vous pouvez pas faire votre journée à partir de ça. Donc, une des réactions par rapport au transport en commun, c'est de dire, oui, mais ça coûte beaucoup trop cher. Si on va avec une équipe de reportage dans un quartier, puis qu'on raconte le parcours d'une personne qui veut vraiment prendre le transport en commun, mais qui passe 3 heures à le faire dans sa journée parce que c'est trop compliqué, mais peut-être que les gens vont comprendre que finalement, c'est pas juste la responsabilité du citoyen de se faire mettre sur les épaules la responsabilité de pas prendre les transports en commun. C'est parce qu'il y en a pas. Et que le gouvernement aussi, ou les autorités, les responsables politiques, ont une responsabilité dans ces décisions-là. Et donc, pour nous, c'est d'expliquer ça, que c'est pas juste ça. Tout ça ne repose pas que sur les épaules des citoyens, que les élus, ils ont une responsabilité, puis il faut décrire ça.
Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que ça fonctionne?
Ben, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est une opération sur le long terme. On peut pas dire, on peut pas dire, je peux pas dire que est-ce que ça marche. Le problème de l'environnement, c'est que c'est toujours supplanté par le problème du quotidien. On décrit ça comme le dilemme entre la fin du monde et la fin du mois. Et ça, c'est un vrai problème qui s'est très accentué depuis les dernières années avec l'inflation, avec les taux d'intérêt. L'environnement dans cette difficulté que les gens ont de subvenir à leurs besoins du quotidien, c'est sûr que l'environnement, ça prend le bord. Je sais pas le nombre de campagne électorale que j'ai couverte où on me disait, toi, tu vas nous expliquer les enjeux environnementaux parce que ça va être le sujet de la campagne électorale, ça va être l'environnement. On commence la campagne, on dit, ah, l'environnement, c'est vraiment la préoccupation des gens. Ça dure 2 jours, puis après ça, tous les problèmes du quotidien reviennent et l'environnement prend le bord. Puis la même chose pour les ministres de l'Environnement. Autour d'une table d'un cabinet, bien, on se rend compte que finalement, ce ne sont jamais les ministres les plus puissants dans le processus de décision. On le voit très bien au Québec en ce moment, comment ça se passe. Puis au Canada aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas un ministre qui croit pas là, à l'action climatique et tout, mais parce qu'on vit dans un pays qui produit beaucoup de pétrole et puis il y a des limites à ce qu'il peut faire.
L'écosystème politique a changé dans les dernières années, on vient d'en parler, mais l'écosystème médiatique aussi au niveau de la question de l'environnement. Peut-être moins au Québec, mais certainement dans le Canada anglais, il commence à avoir des petits médias spécialisés dans la question de l'environnement. Je pense notamment au Narwhal. Puis à l'international, maintenant, il y a une initiative qui s'appelle Covering Climate Now.
Oui.
Donc, on essaie de réfléchir vraiment, d'avoir une communauté d'idées autour de comment couvrir la crise climatique. Comment est-ce que toi ou Radio-Canada, comment est-ce que les journalistes qui couvrent la question climatique sont en train de, essentiellement, se former un caucus de meilleures pratiques là, pour essayer de répondre à cette question-là, avec la science aussi, disons, psychologique,
oui,
pour essayer de comprendre comment communiquer sur la question du climat? Oui.
Covering Climate Now, on fait partie de ça à Radio-Canada, donc on assiste aux séances de formation qu'il y a, puis on consulte tous les articles qui sont publiés sur les conseils qui nous sont donnés sur comment mieux trouver des histoires dans une campagne électorale, dans une conférence sur le climat, dans une conférence sur la biodiversité, quel angle privilégier, des choses comme ça. Donc, on consulte ça. Donc, on a formé un comité. Je vous disais, au début, j'étais pas mal tout seul à Radio-Canada à faire ça. Puis mes patrons m'écoutaient, puis ils disaient, oui, très bien, très bien. Ils me faisaient bien confiance. J'ai toujours eu beaucoup de liberté. Mais là, aujourd'hui, on est une vingtaine quasiment, où on se réunit toutes les 2 semaines, le jeudi, et puis on réfléchit à ces questions-là. Par exemple, à la prochaine réunion, on va passer une bonne heure à parler du vocabulaire qu'on doit ou qu'on peut utiliser ou qu'on devrait utiliser pour parler des changements climatiques. Est-ce qu'on doit parler de basculement? Est-ce qu'on doit parler de déclassement, d'urgence? Est-ce qu'on doit toujours qualifier la crise climatique comme une urgence climatique? Après ça, il y a des journalistes aussi qu'on encourage pour aller suivre des formations. Par exemple, l'Université d'Oxford donne une excellente formation sur la façon de mieux couvrir la question climatique. Il y a le programme de Yale, Climate Communication, à l'Université Yale, qui donne énormément de ressources. On fait venir des experts, par exemple, dans ce petit groupe là, dont je vous parlais, où on se réunit toutes les 2 semaines. Il y a une semaine, on a été pendant 2 heures avec un expert sur les feux de forêt. quelqu'un qui vient nous dire quel est l'état de la situation, qu'est-ce qu'il faut surveiller, tout ça. Donc, tout ça fait des petits, quoi. Puis moi, ce que j'ai suggéré après, nous, c'est bien, là, on est une vingtaine de personnes, des gens qui sont dans les régions, des gens de l'économie, des gens de RAD, des gens de carbone. Puis moi, je leur ai dit, c'est ce qu'on a fait chez nos collègues à Radio France. Ils ont fait ces formations-là, par exemple, avec des experts, mais ils ont invité tout le monde, les recherchistes, les réalisateurs, les caméramans, pour assister à des conférences pour, dans le fond, dire quel est l'état des océans 101. Voici un petit cours d'une heure sur l'état des océans, après ça, sur la déforestation. Puis, et en Radio France, ils ont fait ça, ils ont pris l'initiative de conscientiser tout le monde dans l'écosystème de la boîte pour que tout le monde ait ça en tête. Et moi, j'ai suggéré ça la dernière fois, puis ils n'ont pas été fermés à ma proposition. On verra bien où ça mène.
Ça me fait sourire parce que je me mets dans la tête d'un complotiste, puis je t'écoute parler de comment est-ce que Radio-Canada est en coopération internationale avec toutes les universités qui se mettent d'accord pour faire pousser le monde dans le même sens. Si tu ne crois pas au système, c'est la preuve du complot. Si tu crois à la science, par contre, ça veut dire que tout le monde a une expertise, puis qu'on est dans le champ de partage de cette expertise-là.
Tu sais, encore là, ce matin, là, sur les réseaux sociaux, je me faisais varloper là, pour un article que j'ai écrit. C'est tout le temps le cas. T'sais, je dis aux gens, si vous rejetez la science climatique, vous devriez rejeter toute la science sur le cancer, sur l'ingénierie des ponts, tu sais, tout ce qui constitue notre société.
En français, be careful what you wish for, parce que c'est justement ça qu'il y a bien du monde qui sont en train de faire.
Notre rédactrice en chef là qui mène tout ce groupe là, c'est Marie Lambert-Chan, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Québec Science et la rédactrice en chef de Découverte maintenant. Donc c'est une personne qui est vraiment très 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 donc qui nous mène avec toujours en tête cette préoccupation scientifique.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Étienne, en milieu d'émission, on aime toujours prendre un petit moment pour voir qu'est-ce que nos invités gardent aussi en tête ces temps-ci. Qu'est-ce que tu es en train de surveiller en ce moment?
Une chose qui m'intéresse beaucoup, parce que, comme je pense, vous pouvez le constater un peu partout sur la planète, notamment en Europe, mais ici aussi, en Amérique latine, puis en Amérique, la droite et l'extrême droite fait son lit, fait sa place, et puis on parle de plus en plus de la question des migrations.
Ouais.
Puis sur le thème du climat, la question des migrations, c'est très important. Puis on commence à voir, mettons, des activistes climatiques qui commencent à faire peur aux gens en disant, si on n'agit pas contre le climat, vous allez avoir une horde de migrants qui vont arriver à vos frontières.
Et puis, de l'écofascisme.
J'ai été très marqué par un balado que j'ai écouté l'année passée, en fait, mais je le réécoute de temps en temps. C'est une équipe de NPR, donc la radio publique américaine, qui est allée tracer le portrait du parcours entre, justement, les changements climatiques, la migration et la montée de l'extrême droite en Europe. C'est fascinant. Donc, ils ont commencé leur parcours au Sénégal. Qu'est-ce qu'un migrant climatique, dans le fond? Un migrant climatique, au fond, souvent, c'est pas au début un migrant climatique. Il est perçu comme un migrant économique, mais c'est la famille au Sénégal qui a son petit lopin de terre puis qui n'arrive plus à cultiver parce qu'il n'y a pas de pluie ou il y a eu des inondations. Puis on dit au fils, ben va faire un peu d'argent sur la côte à Dakar pour pêcher et puis ramène-nous de l'argent. Puis là, il arrive à Dakar, puis la pêche est complètement ne fonctionne plus justement parce que soit il y en a trop, soit il n'y a plus de poissons dans la mer et prend contact avec des réseaux pour migrer, puis se retrouve au Maroc, à Ceuta, en cabané, finalement prend un bateau pour aller en Espagne, puis là il arrive en Espagne et va cueillir des fruits dans les grands maraîchers espagnols et tout. est très mal reçu. Puis là, où en Espagne ou ailleurs en Europe, l'extrême droite prend de l'ampleur parce qu'il y a trop de migrants illégaux. Tout ça expliqué par les difficultés climatiques qu'il y a au Sénégal, finalement. Et l'équipe de NPR, en 3 épisodes, fait le portrait de tout ça.
Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle donc The Sunday Story. C'est l'histoire du dimanche d'un balado qui s'appelle Up First, qui est un balado quotidien à NPR. Et puis le dimanche, ils ont une édition spéciale qui s'appelle The Sunday Story.
Donc, les Sunday Stories de Up First sur NPR.
C'est ça.
Allez suivre ça sur toutes les plateformes. Merci, Étienne, c'est bien noté.
Donc, pour moi, c'est ça. Pour toi, Émilie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu surveilles?
Écoute, je vais nous amener complètement ailleurs, sauf que j'ai gardé le même thème de c'est important de se baser sur les faits et les chiffres. Personnellement, je suis très inquiète cette semaine et dans les dernières semaines de la manière dont l'Office québécois de la langue française publie une série d'études très intéressantes sur l'évolution d'abord du français dans l'espace public. Il y a eu un premier rapport il y a 2-3 semaines. Et puis maintenant, cette semaine, c'était l'utilisation du français dans la grande région de Montréal comme les langues de commerce. J'invite les gens à aller lire les rapports de l'Office québécois de la langue française parce qu'il y a un écart assez grave entre les données qui sont dans les rapports et la manière dont on choisit de résumer les rapports et les titres qui sont associés aux rapports. Ça donne des titres qui sont « Le français décline dans les commerces de Montréal » et quand on regarde les chiffres, c'est 98 % des commerces montréalais qui peuvent servir les gens en français. 98 %. Donc, il y a vraiment un écart entre les faits et la communication, tant journalistique que politique. Et je trouve que la langue, c'est un sujet beaucoup trop important pour qu'on puisse se permettre collectivement de déconner là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai en tête cette semaine. J'invite vraiment les gens, lorsqu'on parle de la question de la langue française, à regarder les faits et à comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on insiste sur telle statistique plutôt que telle autre statistique et à comprendre les choix politiques qui sont faits derrière ça. C'est très rare que les gens sont formés en sociolinguistique lorsqu'ils parlent des questions de langue et ça paraît dans la manière dont les gens traitent et résument les statistiques. Et je pense que si on forme les journalistes à parler d'environnement, ça serait peut-être pas une mauvaise chose de former aussi certaines salles de nouvelles à comprendre les notions de base en sociolinguistique si on veut commenter tant que ça sur la langue française au Québec.
C'est bien noté.
Et dans cette deuxième partie de notre émission, on veut d'abord parler de ton balado qui s'appelle « 1000 questions, une planète » où tu parles d'environnement aujourd'hui en tant que journaliste, c'est-à-dire de la manière dont on communique sur la question environnementale.
Le climat change.
Nous sommes entrés dans l'ère des changements climatiques.
Il perturbe l'équilibre des choses, de notre planète et de notre réalité quotidienne.
Nos citoyens sont confrontés chaque jour à la crise climatique.
On peut se sentir perdu, dépassé par les événements.
Un autre signe qui montre l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
On cherche des repères, des réponses et surtout des solutions.
Je milite depuis plusieurs années sur de confier le problème environnemental à un organisme indépendant.
Il existe des solutions, elles sont bien documentées, et si on les met en œuvre, on a des chances d'éviter les pires scénarios.
Je m'appelle Étienne Leblanc. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter le projet?
Oui, donc 1000 questions, une planète. C'est un projet, en fait, que je porte depuis, je dirais, 5 ans.
Déjà?
Oui, c'est vraiment une préoccupation pour moi de vouloir, dans le fond, au début, l'idée que j'avais en 2019, c'était de tout simplement de donner la parole à des experts, mais des bons communicateurs qui pourraient nous vulgariser des idées reliées au changement climatique qui sont parfois complexes, ou surtout donner la parole plus longtemps des gens qu'on entend souvent dans des courts extraits à la télé ou à la radio, qui n'ont jamais vraiment le temps d'aller au fond des choses. Mon idée, c'était ça au départ. Et puis le projet a tergiversé, a pris des chemins de traverse. Il y a eu la pandémie qui a mis le projet sur la glace et tout. Et puis finalement, on y a beaucoup réfléchi, on a fait plusieurs pilotes, puis on est revenu un peu à mon idée de base d'aller parler à un expert. Et l'idée, comment est-ce qu'on peut parler des changements climatiques sans juste décrire le cataclysme qui nous attend, mais en donnant des outils aux gens pour être lucides, mais pour quand même porter un peu d'espoir, parce que on peut pas se lever le matin et toujours voir le lendemain comme une journée sombre. Il faut avoir un peu d'espoir pour pouvoir poser des gestes, poser des actions, poser des questions à nos responsables politiques. Il faut quand même voir l'avenir avec un peu d'optimisme. Et puis, c'était ça ma préoccupation. Comment est-ce qu'on peut parler de ça en donnant aux gens les outils pour qu'ils aient davantage d'emprise sur le problème?
Parce que tu le résumes dans la manière dont tu présentes le balado sur le site de Radio-Canada. Tu dis, je te cite, « On sait aujourd'hui qu'il est possible de changer le cours des choses et pourtant, on décroche. » Ma question, est-ce que notre façon de communiquer les informations sur le climat nourrit notre apathie?
La façon dont on parle de cet enjeu-là, ça nourrit cette fatigue climatique qui s'inscrit pas juste, c'est pas juste la fatigue climatique, hein, ça s'inscrit dans une fatigue informationnelle. C'est bien documenté que les gens sont moins intéressés à l'actualité parce que c'est quand même très déprimant là, depuis quelques années, l'actualité. Puis la question climatique, ça fait partie de ça. Mais vous savez, on n'est pas les seuls à se poser cette question-là. Allez voir le dernier rapport du GIEC, là, et vous allez voir dans ce rapport-là une grande section sur les solutions. Les scientifiques aussi se questionnent sur la façon de transmettre leur message de façon la plus efficace pour que les gens écoutent. Parce qu'ils se sont rendus compte que juste en écrivant des rapports, en décrivant les faits, les gens ne font même pas l'effort d'aller voir, même ne serait-ce que le résumé du rapport. Alors, même les scientifiques sont conscients de ça, se posent aussi la question. C'est comme un grand mouvement actuellement. Parce qu'au fond, moi, ce que j'ai compris depuis 20 ans dans la question climatique, c'est qu'on peut décrire des faits, mais les gens vont être interpellés, si on touche à une émotion. S'il y a une émotion quelque part, qui est une corde sensible, là, les gens vont être plus à l'écoute, puis peut-être que ça va générer quelque chose.
Dans le fond, on s'est beaucoup basé, pour parler du climat, sur les sciences, on va appeler ça les sciences dures, ouais. Les sciences exactes. Puis finalement, ce qui nous manquait, c'était peut-être les sciences sociales puis les sciences humaines.
Oui. Oui, vous parliez de psychologie tout à l'heure. Oui. Donc, tout ça, maintenant, il y a plein... Ça, c'est super intéressant parce qu'avant, c'est vrai que c'était juste des scientifiques, des climatologues, des physiciens, tout ça, qui s'intéressaient à ça. Aujourd'hui, vous allez dans une université, dans le département de sociologie, dans le département d'histoire. Il y a plein de monde qui travaille sur le climat. Donc, pour nous, comme journalistes, ça nous donne quand même beaucoup d'outils pour bonifier le contenu qu'on veut lancer dans le paysage médiatique.
Il y a un de tes épisodes qui est intitulé « Comment mieux parler de la crise climatique » où le point de départ, c'est vraiment cette fatigue médiatique-là et surtout la notion qu'on n'a pas encore nommée, mais qui est peut-être en filigrane de toute notre conversation, c'est la notion d'éco-anxiété. D'après le Digital News Report Canada de 2023, mené par le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval pour Reuters, un quart des Canadiens et des Canadiennes évitent les nouvelles sur le fond pour ne pas être confrontés aux questions climatiques. C'est un peu ce qu'on disait.
Ouais.
Puis, on lisait aussi dans la presse que près de la moitié des 18-24 ans se sentent complètement démunis face à la situation climatique. On l'a vu dimanche dernier à Montréal, il y avait la manifestation pour le Jour de la Terre. Presque personne. On parle de quelques centaines de personnes seulement. Les jeunes ne sortent même plus dans la rue pour la question du climat. On est dans l'année qui s'annonce être l'année la plus chaude de l'histoire, battre encore le record de 2023. Il n'y a plus personne dans les rues de Montréal. J'aimerais t'entendre sur cette notion-là d'éco-anxiété, particulièrement chez les jeunes.
Moi, ça vient me chercher, c'est sûr, parce que moi, je suis père de deux grandes filles, là, 21 ans et 16 ans. Donc, moi, je les vois, là, on en parle de ces choses-là. Puis c'est pour ça qu'elles entendent les nouvelles sur l'avenir. Puis évidemment, quand on a cet âge-là, on essaie de se projeter dans l'avenir. On l'a tous fait. On essaie de se projeter dans l'avenir. Puis pour cette génération-là, leur vie, c'est les changements climatiques. Toute leur vie, ils vont subir les effets des changements climatiques. Ce que nous, on n'a pas... En tout cas, ce que moi, j'ai pas trop vécu, parce que dans les années 70 et 80, c'était moins présent. Cette génération-là...
Il y avait encore de la neige, puis on pouvait patiner.
Il y avait de la neige.
On pouvait jouer au hockey dehors à Montréal.
Oui, puis l'été n'était pas aussi chaud. Puis, tu sais, on se faisait pas non plus toujours abattre les oreilles quand on prenait l'avion. Puis bon, c'est ça, là. Eux autres, leur vie, c'est à ça que ça va ressembler. Et les gens qui vont dans la rue, les militants, à qui moi je parle quand même assez régulièrement, ils me disent « on est tannés d'aller dans la rue pour empêcher des reculs. Mmh. On aimerait ça, pouvoir aller dans la rue puis voir des pas vers l'avant. Et c'est comme s'il y avait un découragement parce qu'ils sentent qu'au point de vue politique, il ne se passe rien. Et qu'au contraire, même parfois, on recule. On a ce débat actuellement au Québec sur le transport en commun.
Oui.
43 % de nos émissions au Québec, c'est le transport. C'est sûr que le transport en commun, c'est une solution très importante de notre problème. Et pourtant, qu'est-ce que le gouvernement dit? C'est pas la mission de l'État de s'occuper du transport en commun.
On a la discussion ici à Montréal, mais les gens, Canada Land, les gens nous écoutent partout au pays. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas justement que le gros débat en ce moment au Québec, c'est le transport, parce que c'est pas la taxe sur le carbone, parce que le Québec est pas dans le débat sur la taxe sur le carbone, mais tout le reste du pays, c'est ça qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on devrait reculer sur la taxe sur le carbone? C'est ça la question politique qui domine l'actualité dans le reste du Canada depuis déjà plusieurs semaines, si ce n'est pas des mois, là.
On peut comprendre les jeunes d'être découragés parce que là, en ce moment, justement, on parle d'un recul. Et nous, les médias, mais je parle de nous, mais de tous les médias, on couvre ça souvent comme une partie de hockey. Ah, lui a dit ça, lui a dit ça, puis lui, il confronte ça, puis lui, il s'oppose à ça, puis... Et on met trop peu de contexte dans ça. Donc, c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, par exemple, il faut davantage faire des reportages sur la responsabilité des élus puis des responsables politiques dans le problème. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Qu'est-ce qu'ils ne font pas, les élus, qui pourraient faire pour améliorer la situation? Faut parler davantage de ça. Faut arrêter de mettre le fardeau sur les épaules des gens. Puis c'est pas étonnant que les gens soient éco-anxieux parce que, justement, on leur dit « faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça », mais trop peu, on met la responsabilité sur les élus politiques. Donc, il y a une forme de découragement, là, on le comprend.
C'est peut-être une manière de terminer sur une note de solution, je vais l'employer, moi, pour le coup. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'environnement différemment si la question environnementale était décloisonnée, c'est-à-dire que ça ne soit plus un beat là, spécialisé,
oui, oui.
Mais que les journalistes de la colline parlementaire à Québec, à Ottawa, les journalistes politiques avaient ces formations-là, environnement, faisaient de la question environnementale une compétence transversale, oui, pour le journaliste politique, oui, québécois-canadien.
C'est mon but. Moi, j'aimerais beaucoup. Puis on en parle dans nos réunions. Je disais, on donnait des formations à peu près tout le monde. Les journalistes sur les collines, on essaye. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'au fond, il y a peut-être une question de ressources aussi. Ils ont beaucoup de choses à faire. Puis des fois, eux aussi se sentent dépassés dans le contenu qu'ils ont à couvrir. Mais ça fait partie des discussions, ça, d'avoir des journalistes politiques qui pinaillent davantage sur ces problèmes, qui posent plus de questions sur ces problèmes-là. Mais on a beaucoup, tendance à couvrir la politique comme je disais, comme une, ouais, partie de hockey. T'sais. C'est sûr qu'il faut transcender ça puis aller un petit peu plus dans le contexte puis le fond des choses. J'ai pas de solution miracle à ça. C'est un écosystème, les médias, qui est compliqué.
Je peux peut-être terminer avec une confidence. Je collabore avec l'émission Power in Politics à CBC. Puis je trouve que, justement, dans un débat au Canada anglais qui est dominé par la question de la taxe sur le carbone, travailler avec David Cochran comme, oui, animateur est vraiment intéressant parce qu'il a tendance de plus en plus à formuler ces questions du type « les scientifiques nous rappellent ça, ça, ça ». Maintenant, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi l'analyse politique que vous avez à nous offrir, vous, commentateur qui est devant nous? Ou mon enfant fait de l'asthme, qu'est-ce qui va se passer avec les feux de forêt cet été, vous pensez? Donc, je sens en ondes qu'il commence à avoir une réflexion du côté de CBC News Network. J'espère qu'effectivement, ça peut-être... être contagieux. Je prends le temps de le souligner parce que, justement, je pense que quand on sent les salles de nouvelles politiques, là, vraiment, là, commencer à être là-dedans, je pense que c'est important de souligner quand ça commence à se faire, justement, pour encourager les journalistes politiques à continuer.
C'est un excellent exemple. Je trouve l'exemple de David Cochran. Puis, effectivement, on devrait s'en inspirer.
Merci, David. Et merci, Étienne. C'est tout pour Détour. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver sur Twitter à Canada Land et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. canadaland.com. Étienne, où est-ce que les gens peuvent trouver ton travail? D'abord, le balado.
Le balado, donc, sur notre appli audio. Vous allez trouver ça facilement.
Pour les gens qui ne connaissent pas, audio, c'est O-H-D-I-O, donc l'application de Radio-Canada pour les balados.
C'est ça, l'application où vous pouvez écouter la radio. Tout l'environnement sonore de Radio-Canada s'y retrouve. Et puis, sur le site Internet, donc, j'écris régulièrement des textes d'analyse là, sur la question environnementale.
Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour à chaque deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Lucie Lemonnier. La production technique est par Tristan Capacchione. Le coordonnateur de la production est André Proux. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCald. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches, comme vous avez déjà l'habitude de le faire.
A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place.
Justice will not be served in this case. She's gonna get away with it.
Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.